le magazine des Nations Unies. La MONUSCO persiste et signe un calendrier électoral dans les meilleurs délais en conformité avec l'accord du 31 décembre 2016 et la résolution 2348, cela en réaction aux propos du président de la CENI pour qui il sera impossible d'organiser les scrutins avant la fin de 2017. Les détails dans cette édition. La RDC est plongée dans une crise humanitaire suffocante pour des millions de civils. La coordination des affaires humanitaires OCHA lance la sonnette d'alarme et revient sur les causes de cette crise aux effets néfastes pour la population. L'Afrique centrale se mobilise pour venir à bout de Apodoptera frugiperda, cette chenille légionnaire venue de l'Amérique qui ravage légumineuses et céréales, principalement le maïs. Un atelier s'est tenu à Kinshasa pour arrêter les stratégies de lutte. Nous recevrons un expert de la FAO dans notre décryptage. Enfin, la RDC se dote d'un système national de surveillance des forêts. La validation de cet outil de contrôle et de gestion des ressources forestières a eu lieu à Kinshasa avec la participation et l'appui des partenaires comme la FAO. Un autre expert de cette agence des Nations Unies nous en parle. Il sera notre invité.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous. La MONUSCO croit et tient encore à la publication dans les meilleurs délais d'un calendrier électoral pour la tenue des scrutins en République démocratique du Congo selon l'esprit et la lettre de l'accord de la CINCO, mais également la résolution 2348. Le porte-parole ad intérim de la mission de l'ONU en RDC l'a réaffirmé mercredi dernier à Kinshasa en réaction aux déclarations du président de la CENI selon lesquelles il serait impossible d'organiser ces scrutins avant la fin de l'année en cours. C'était au cours de la vidéoconférence de presse des Nations Unies. Honoré Missenga Kalala.
Théophane Kinda, le porte-parole intérimaire de la MONUSCO, a rappelé à cet effet la position de Mamane Sidikou rendue publique le 1er juillet dernier et par laquelle le représentant spécial du secrétaire général disait soutenir l'application de l'accord du 31 décembre qui fixe l'organisation des élections avant la fin de l'année 2017. Cette position de la MONUSCO reste donc inchangée. Théophane Kinda.
L'élection devrait être organisée avant la fin de l'année 2017. Donc pour nous, le représentant spécial du secrétaire général va continuer ses bons offices en vue d'avoir et de demander encore la publication dans les meilleurs délais du calendrier électoral conformément à la résolution 2340.
Ainsi, la MONUSCO prône le respect strict de la lettre et de l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre, y compris la prise par le gouvernement des mesures de décrispation.
Et nous appelons aussi à des mesures de décrispation qui pourront certainement amener les uns et les autres à s'entendre et à évoluer vers la tenue d'élections libres, crédibles et apaisées dans ce pays.
Le porte-parole intérimaire de la MONUSCO a par ailleurs rappelé que le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a déclaré mardi le 11 juillet devant le Conseil de sécurité que les propos du président de la CENI étaient un motif supplémentaire de préoccupation. Mais au-delà des Nations Unies, c'est donc toute la communauté internationale qui est préoccupée par les déclarations de Corneille Nangaa. Au cours de la même vidéoconférence de presse, le directeur de l'information publique de la MONUSCO, Charles-Antoine Bambara, a tenu à le souligner à partir de Goma où il était en mission de service.
Beaucoup d'autres membres du Conseil de sécurité ont en effet pris la parole pour abonder dans le même sens. Je pense la Bolivie, le Kazakhstan, les États-Unis, le Royaume-Uni ont tous abondé dans le même sens, demandant à la RDC de prendre les dispositions effectivement pour que l'accord du 31 décembre soit appliqué dans son intégralité selon les textes qui ont été signés en décembre 2016. Au-delà des Nations Unies, c'est la communauté internationale qui se sont interpellés sur ce dossier de la RDC.
Certains des États membres du Conseil de sécurité, comme les États-Unis, ont même menacé la RDC de nouvelles sanctions si les élections ne se tiennent pas comme prévu cette année.
Cri d'alarme de la coordination des affaires humanitaires. Dans son communiqué daté du 7 juillet dernier, OCHA signale que pendant ces 6 derniers mois, la RDC est au cœur d'une crise humanitaire suffocante pour des millions de civils. La même source avance un certain nombre de raisons qui ont toutes une incidence négative sur la vie de la population. Jean-Pierre Elali Coco nous en parle.
Selon OCHA, la moitié des 26 provinces du pays sont touchées par les violences armées, les conflits intercommunautaires, les maladies et les catastrophes naturelles. OCHA explique que le choléra et la rougeole surgissent fréquemment, tandis que le paludisme connaît une ascension toujours croissante. La malnutrition, liée fortement à l'insécurité et au mouvement des populations, prend aussi de l'ampleur, avec près de 2 millions d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère. C'est la première raison qui explique la crise humanitaire. La deuxième raison qui est une conséquence de la première, c'est que la RDC compte à ce jour 3,8 millions de personnes déplacées. Un tiers d'entre eux se trouve au Kasaï. Ceci fait ainsi de la RDC le pays africain abritant le plus grand nombre de déplacés internes. À cela s'ajoute le flux permanent de réfugiés provenant de ses voisins, notamment du Burundi, de la République centrafricaine et du Soudan du Sud. La troisième raison est liée à l'insuffisance des ressources financières. Un appel de 748 millions de dollars lancé en début de l'année et jusqu'à présent, note OCHA, financé à moins de 25%. Enfin, une quatrième raison, ce sont des contraintes sécuritaires, notamment d'accès pour les acteurs humanitaires aux communautés affectées.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Apodoptera frugiperda, c'est en tout cas le nom de la chenille légionnaire qui ravage légumineuses et céréales en Afrique centrale et principalement le maïs. Un atelier de concertation des acteurs de la sous-région s'est tenu du 11 au 13 juillet à Kinshasa pour étudier les stratégies de lutte contre cet insecte ravageur venu des Amériques. Sanunga Sagnia, chargé de la production et la protection des plantes à la FAO, basée à Libreville, évoque l'objectif de cette réunion, mais surtout les moyens de lutte. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Coco.
Monsieur Sagoun Sagnia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de la production et protection des plantes et vous êtes de l'AFAO et vous êtes basé à Libreville au Gabon.
Oui.
Alors nous venons d'assister à l'ouverture de cet atelier et qui consiste justement à lutter contre la chenille ravageuse, notamment du maïs.
Mm-hmm.
Alors est-ce que nous pouvons avoir une idée sur l'objectif de cet atelier?
L'objectif de cet atelier est de partager d'abord des expériences entre les pays qui sont affectés en Afrique centrale. Depuis l'introduction de ces ravageurs dans la sous-région en 2016, il y a eu maintenant pratiquement tous les pays de notre sous-région qui sont affectés. Donc on s'est dit, compte tenu de l'importance des dégâts qui sont causés par ces ravageurs, les conséquences sur la vie des populations rurales, surtout les producteurs de maïs, il était intéressant de réunir les experts, des chercheurs, mais aussi les services de la protection des végétaux, mais aussi des décideurs, pour partager des expériences et voir comment, au niveau de notre sous-région Afrique centrale, nous pouvons coordonner nos efforts pour lutter efficacement contre ces ravageurs. Donc voilà l'objet de cette rencontre.
Le ministre a parlé tout à l'heure des 14 pays qui sont concernés par cette chenille ravageuse. C'est quoi justement cette chenille qui fait autant de ravages?
Oui, cette chenille n'était pas présente de toutes les façons en Afrique du tout. C'est une chenille qui a été introduite des Amériques.
Ça vient de l'Amérique?
Des Amériques, soit Amérique du Nord ou Amérique du Sud, mais des zones tropicales des Amériques. Mais la façon dont c'est arrivé ici en Afrique, on ne sait pas exactement. Tout simplement parce que les services de la protection des végétaux et les services qui sont chargés du contrôle phytosanitaire dans notre sous-région sont très faibles. Ils n'ont pas les moyens pour contrôler les frontières au niveau des ports, au niveau territorial, au niveau des aéroports, pour inspecter les produits agricoles qui rentrent dans les pays. Donc si on n'a pas ces capacités, tout peut rentrer comme tout peut sortir de nos frontières. Donc voilà les faiblesses inhérentes qui sont au niveau de nos pays. Donc la façon dont cette chenille est arrivée en Afrique, on ne sait pas jusqu'à maintenant. Mais c'est venu des Amériques. Maintenant, comme c'est venu d'ailleurs et que c'est établi, il faut maintenant le contrôler parce qu'actuellement, en réalité, il y a plus de 20 pays qui sont affectés en Afrique subsaharienne. Donc c'est un fléau qui est général sur tout le continent africain.
20 pays affectés. Et où est-ce que vous allez trouver les moyens au niveau de l'Afrique centrale pour lutter contre cette chenille?
Tout d'abord, comme le représentant de la FAO a dit dans son discours, la FAO a mis en place déjà un projet pour lutter contre ces ravageurs ici en RDC. Bien sûr, compte tenu de l'importance du problème en RDC et l'étendue du territoire national, ce projet à lui seul ne suffit pas. Il faut mobiliser d'autres financements pour essayer de lutter contre ces ravageurs. Donc comment est-ce qu'on va le faire? Nous prévoyons au niveau de cet atelier un groupe de travail qui va se pencher uniquement sur les aspects de mobilisation des financements. Comment est-ce qu'on peut mobiliser des financements auprès des États, mais auprès des bailleurs du fonds également. Mais pour ce faire, il faut venir avec vraiment des propositions concrètes pour montrer l'impact socio-économique de ces ravageurs sur les populations. Je crois que c'est ainsi que nous pouvons sensibiliser la communauté internationale pour venir en aide au pays.
Il y a une remarque qu'on fait souvent à ces gens d'ateliers. On prend des bonnes résolutions, on prend des recommandations et la fête se termine là-bas. Quelles sont les chances de réussite de cette lutte que vous allez mener à partir de cet atelier?
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons jugé utile d'impliquer les communautés économiques régionales, notamment la CEAC et la CEMAC, qui sont deux communautés économiques qui sont en Afrique centrale. Parce qu'ils doivent jouer leur rôle, les États aussi doivent jouer leur rôle. Mais on ne va pas s'arrêter là. Nous, on va essayer de voir quels sont les mécanismes que nous allons mettre en place pour avoir un suivi rapproché de toutes les résolutions que nous allons prendre au niveau de cet atelier. C'est comme ça seulement, et seulement comme ça, qu'on peut faire la différence. Parce que sinon, comme vous le dites, ça va devenir une énième réunion qui ne va pas avoir un effet. Et nous, au niveau de l'AFA, on va éviter ça.
Toute une dernière question, M. Sagna. La chenille s'attaque seulement au maïs ou bien à d'autres céréales, notamment en République démocratique du Congo?
Ça ne s'attaque pas seulement au maïs, parce que ça s'attaque à 80 espèces différentes de plantes, y compris le maïs, bien sûr, le riz, ça s'attaque au sorgho, ça s'attaque au niébé, ça s'attaque au blé et beaucoup d'autres céréales et légumineuses. Donc c'est un ravageur qu'on dit polyphage, c'est-à-dire ça attaque plusieurs espèces de plantes. Donc voilà même l'importance aussi. Ça ne veut pas dire que demain, on ne va pas trouver par exemple sur le riz. C'est possible, parce que les chouches qui attaquent le riz sont déjà présentes aussi en Afrique.
On comprend l'ampleur de la lutte, il faut agir vite, oui.
Il faut agir très vite et très efficace, voilà.
Et M. Sagna, nous vous remercions.
Merci beaucoup.
Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme affirme avoir identifié au total 80 fosses communes dans les Kassai après la découverte de 38 nouvelles autres fosses communes dans 4 sites différents à Diboko et à Sumbula dans le territoire de Kamonia dans la province du Kassai. Cela au cours d'une enquête conjointe effectuée les 4 et 7 juillet dernier avec la justice militaire congolaise. Information livrée mercredi dernier au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. Flambée de l'épidémie de choléra en RDC, 18 des 26 provinces et la RDC touchées selon la coordination du groupe de communication des Nations Unies. D'après la source, le plus grand nombre des cas sont enregistrés dans les provinces du Nord Kivu, dans le Congo central, dans le Haut-Lomami, dans le Tanganyika, dans le Sud Kivu, mais également à Kinshasa. Le gouvernement mène des actions afin de juguler l'épidémie avec le soutien des Nations Unies dans les domaines de la coordination, la surveillance épidémiologique, l'analyse des cas suspects, la prise en charge gratuite et la gestion des risques de propagation le long du fleuve Congo. Enfin, sur le plan de la formation en Ituri, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a assuré du 11 au 12 juillet une formation à l'intention de près de 40 officiers et sous-officiers de la police nationale congolaise et des FARDC. Cette activité visait à sensibiliser les forces de l'ordre et de défense pour qu'elles soient en mesure de bien sécuriser le processus électoral.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
50 experts du ministère de l'Environnement et Développement Durable, des représentants, des partenaires techniques et financiers de la société civile, des institutions universitaires, des organisations environnementales et tous les autres partenaires intéressés par les enjeux liés à la gestion des ressources forestières en RDC ont validé le vendredi 7 juillet la feuille de route contenant les objectifs et la méthodologie de l'inventaire forestier national. Maguen reçoit donc un expert, il est chef de projet à l'AFAO pour parler des objectifs mais surtout de l'impact de cette feuille de route dans la gestion durable des ressources forestières dans le pays. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Monsieur Quentin Renard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de projet à l'AFAO. Vous avez organisé, bien sûr, avec le gouvernement, un atelier Cet atelier a validé la feuille de route sur l'inventaire forêt nationale. Et au cours de ces travaux, vous avez fait allusion aussi à l'initiative RED+, qui consiste à la réduction des gaz à effet de serre. Cette initiative existe depuis 2010 en République démocratique du Congo. Et beaucoup de moyens financiers ont été alloués à cela. Et quel est à ce jour le bilan de l'initiative RED+?
Alors effectivement, nous avons validé vendredi dernier la méthodologie de l'inventaire forestier national qui se place dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme RED+. Le mécanisme RED+ vise donc la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts en RDC. Comme vous l'avez dit, ce mécanisme est en œuvre depuis 2010 en RDC et c'est depuis 2015 que la RDC a validé son plan d'investissement pour la mise en œuvre du mécanisme RED. Donc la RDC est maintenant dotée d'un grand plan d'investissement après 5 ans de travaux pour véritablement commencer la mise en œuvre de ce mécanisme visant à réduire la déforestation. Donc à travers ce plan d'investissement, on a identifié les différents moteurs de déforestation, l'agriculture, le bois énergie, les mines, etc. Puis on essaye de répondre à ces différents moteurs de déforestation via des actions spécifiques. Alors avec l'inventaire forestier national et avec le programme Système National de Surveillance des Forêts, on veut mesurer les résultats de ces politiques RED+. Donc le gouvernement investit pour réduire la déforestation et nous, on veut mesurer le résultat de ces politiques en mesurant l'évolution du couvert forestier. Est-ce que la déforestation diminue grâce à ces investissements ou est-ce qu'on observe toujours la même tendance de déforestation? C'est notre rôle avec la FAO dans le cadre de ce Système National de Surveillance des Forêts.
Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de la feuille de route de cet inventaire qui a été mis en place?
Alors, vendredi, on a donc validé la méthodologie de l'inventaire forestier. C'était une étape très importante qui avait commencé avec l'identification des besoins en information sur les forêts. Si on réalise un inventaire forestier, il faut savoir pourquoi. Quels sont les objectifs de cet inventaire forestier? Quelles sont les informations dont la RDC a besoin sur ces forêts pour pouvoir les gérer de manière durable? Donc la feuille de route est assez simple. Maintenant qu'on dispose de la méthodologie de l'inventaire forestier, on va pouvoir le mettre en œuvre durant les prochaines années, en commençant dès le mois d'août avec le déploiement des équipes de terrain du ministère de l'Environnement qui vont se déployer aux quatre coins du pays pour commencer les campagnes de mesure sur le terrain. Donc pour aller installer des parcelles de mesure dans les différents types forestiers du pays, pour collecter des données sur l'état des ressources, les volumes disponibles, l'état des forêts, la santé des forêts, sur le carbone qui est stocké dans ces forêts dans le cadre du changement climatique, et puis sur les potentialités du sol en termes notamment d'agriculture.
Quentin Renard, ce n'est pas la première fois qu'on a une telle initiative en République démocratique du Congo. Quels sont les avantages de cet inventaire que vous allez faire par rapport aux initiatives antérieure?
Mais alors tout d'abord, c'est le premier inventaire forestier à l'échelle nationale. Ça, c'est la première fois que la RDC entreprend un inventaire à l'échelle nationale.
Mais il y a eu des initiatives de contrôle là à l'époque.
Il y a déjà eu beaucoup d'inventaires forestiers qui ont été réalisés, notamment dans les forêts de production, pour évaluer les volumes disponibles et puis pour aménager les forêts. Donc c'est des inventaires qui sont généralement localisés dans les concessions forestières. Mais il n'y a jamais vraiment eu une initiative à l'échelle nationale pour évaluer les différents types forestiers qui vont des forêts denses, les forêts de production, jusqu'aux forêts marécageuses, en passant par les forêts de montagne à l'est, et puis les forêts claires, les forêts de miombo. Donc ici, on ne s'intéresse pas uniquement à la production forestière, on s'intéresse à toute une autre série de services forestiers. Donc ça, c'est un avantage, c'est une valeur ajoutée de cet exercice national qui a plusieurs objectifs. On dit que c'est un inventaire forestier multi-usage, multi-objectif. Les principaux objectifs de cet inventaire sont les suivants. Premièrement, la mise en œuvre du mécanisme RED avec l'estimation des stocks de carbone dans les différents types forestiers du pays, les forêts denses, les forêts inondées, les forêts de montagne, les forêts claires, les savanes. Donc on va avoir une compréhension détaillée des stocks de carbone dans ces différents types forestiers. C'est la première fois qu'on fait ça en RDC. Un autre objectif de cet inventaire, c'est la gestion durable des forêts, puisqu'on va avoir une vision globale sur tout le territoire des ressources disponibles, et avec cette connaissance, on peut planifier leur utilisation et leur gestion de manière durable. Un troisième résultat attendu, c'est la conservation de certains écosystèmes en danger, puisqu'on va aller aux quatre coins du pays, on aura aussi une idée sur la biodiversité, que ce soit en termes floristiques ou en termes fauniques. Avec ces informations, on peut établir des plans de gestion et de conservation. Et puis enfin, un dernier objectif, c'est l'aménagement du territoire, puisqu'on va, comme je vous le disais, se déployer aux quatre coins du pays, selon une grille systématique. On va avoir une très bonne idée des potentialités, notamment du sol, pour l'agriculture, et ce, dans les différents écosystèmes.
Quelle serait la contribution de la FAO dans ces inventaires que vous allez faire?
La FAO dispose d'une grande expérience dans la mise en œuvre d'inventaires forestiers nationaux pour avoir appuyé plusieurs pays dans le monde et notamment en Afrique. Concrètement, la FAO a réalisé l'inventaire forestier national au Cameroun, au Congo-Brazza, en Zambie et dans d'autres pays. L'apport de la FAO, c'est un soutien technique au ministère de l'Environnement. Donc on appuie les agents du ministère pour le développement de la méthodologie de manière à capturer un maximum d'informations au moyen d'un échantillonnage statistique. Donc on fournit un appui technique et puis on fournit aussi un appui logistique en appuyant le ministère pour le déploiement des équipes sur le terrain. Donc on travaille vraiment main dans la main avec le ministère de l'Environnement. C'est l'inventaire forestier du ministère avec l'appui de la FAO.
Une autre préoccupation, Quentin Reynard, c'est la non-prise en compte des intérêts des populations autochtones. Est-ce que vos travaux ont tenu compte de cet aspect très important? Parce que ce sont des laissés pour compte, si je peux dire ainsi, dans l'exploitation des forêts qui sont leur première matière ou même leur espace de vie.
Oui, absolument. Alors nous, pour les travaux de terrain, on travaille avec les communautés locales. Donc avant de collecter les données sur le terrain, on réalise des séances de sensibilisation et puis on recrute de la main d'œuvre locale au niveau des communautés locales. Et puis les résultats de cet inventaire forestier serviront à gérer durablement les ressources forestières, non seulement les volumes de bois commerciaux, mais aussi toute une autre série de ressources, comme les produits forestiers non ligneux, qui servent d'alimentation au quotidien pour les communautés locales.
D'où viendront les ressources pour la mise en œuvre de ces projets?
Tout à fait. Alors cet inventaire, comme je le disais au début, se place dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'investissement RED qui a été validé par la RDC il y a 2 ans. Et la RDC a reçu le soutien de l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale, l'initiative CAFI, pour mettre en œuvre toute une série de chantiers relatifs au mécanisme RED. Donc c'est grâce à cet appui de l'initiative CAFI que nous pouvons commencer ce grand chantier de l'inventaire forestier national qui va nous occuper pour les 3 prochaines années.
Quentin Reynard, Radio Capivoire, merci.
Merci à vous.
Une quarantaine d'officiers de la PNC, FRDC, ANER et des GEM de Kindwomanema ont pris part à une formation sur les libertés publiques. Une formation de 3 jours organisée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et dont la clôture a eu lieu en début de semaine. Le chef de section locale du Bureau conjoint, Charlem Kouassimao, en a expliqué l'intérêt au micro de Mathieu Ilunga à Chamboui.
Nous avons tenu à ce que les chefs d'unité de la PNC, RDC, de l'ANR, de la Direction Générale des Migrations puissent être là pour à leur tour faire la restitution à leurs éléments sur le terrain. Ils sont venus traduire en des termes pratiques toute la façon de faire tout ce que la loi dit pour que leurs hommes sachent que devant une telle situation, quelle attitude avoir, quelle retenue et quel comportement ils doivent adopter, quelles directives ils peuvent donner à leurs hommes sur le terrain. Les participants ont vraiment apprécié. Ils ont pu comprendre que la liberté de réunion et de manifestation pacifique est un droit fondamental qui est garanti par la Constitution. Ils ont compris que, en tant qu'agents de force publique, ils ne doivent avoir recours à la force qu'au dernier moment et vraiment dans un but absolument légitime et de façon proportionnelle à la gravité de l'infraction. Que l'emploi de la force létale devait être exceptionnel en dernier recours pour des cas de sauver le cas où une vie humaine est vraiment en danger. Ils ne doivent pas obéir à des ordres illégaux parce que toute leur action doit être calquée, doit être dirigée, doit être le prolongement de la loi constitutionnelle. Bien entendu, si ils estiment que un ordre venant de leur hiérarchie est en contradiction avec la Constitution, eh bien c'est un ordre illégal et donc ils n'ont pas à obéir à cet ordre-là.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
15 063 cas en RDC, c'est déjà assez. Quelles sont les dispositions? Merci.
Et la question ce jour a été posée à partir de Goma au cours de la vidéoconférence de presse des Nations Unies mercredi dernier. Suivez maintenant la réponse du docteur Valentin Mukina, expert du programme Urgence de Santé au bureau de l'OMS RDC.
Merci pour la question. 15 063 cas de choléra pour cette année 2017, c'est beaucoup. Et ça dépasse même à la même période le nombre de cas enregistrés en 2016. Et donc, les mesures prises sont les mêmes mesures de lutte contre cette épidémie de choléra. Le choléra, qui est une maladie à caractère épidémique, devient pratiquement endémique dans les provinces de l'Est et commence à s'installer dans les provinces le long du fleuve Congo. Donc, c'est un problème de santé publique majeur actuellement. Et donc, les partenaires travaillent avec les gouvernements pour mettre en place des mesures durables de lutte contre cette épidémie. Vous savez que le choléra, c'est une maladie qui demande une réponse multisectorielle. Ce n'est pas seulement la santé qui se trouve au bout de la chaîne qui pourra répondre efficacement seule à cette maladie. Donc ça demande la conjugaison des efforts de tous les autres secteurs impliqués dans la vie des populations pour répondre comme il se doit à cette épidémie. Et les efforts sont en cours.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, je m'appelle Billy Van Lutumba Kanyema, marié, père de 4 enfants. Pour ce qui est de mon parcours scolaire, je me mets sur un banc de classe pour la première fois de ma vie dans la cité de Kambov. C'est dans l'actuelle province du Haut-Katanga. Puis je poursuivrai mon école primaire et secondaire à Likasi, à l'Institut Oustawi. Permettez-moi une incise à ce niveau pour passer un bonjour à tous les Adusta. Vous allez me demander, Adusta c'est quoi? C'est les anciens Doustaoui qui sont éparpillés à travers le monde entier et vaillants professeurs de cette école élite. L'humain est monté, ils savent de quoi je parle. Je finis par décrocher mon diplôme d'état en option biologie chimie à Mbujimayi. Un certain 31 juillet 2004, l'Institut supérieur pédagogique de Mbujimayi me décernera mon diplôme de licence en pédagogie appliquée, option biologie. Voilà ce qui est de mon cursus scolaire et académique. Pour mon parcours professionnel, je dirais que j'intègre pour une première fois une structure professionnelle en 1997, quelques années juste après avoir décroché mon diplôme d'état. Après avoir longtemps nourri l'idée de me voir en train de présenter un journal parlé comme Edmond Sadakar, que plusieurs d'entre nous connaissent très bien, il s'agit d'un journaliste de la RFI, Radio France Internationale. Je disais donc, j'intègre la chaîne de radio-télévision Kassai Horizon en juillet 1997, une des premières chaînes privées du pays. Là, on est en Mbujimayi. Je peux même dire que c'est à cette radio que j'acquiers les rudimentaires des médias. Je considère cette maison comme un centre d'apprentissage car c'est là que j'ai consolidé la prise des vues avec une caméra que j'avais déjà débutée à la maison quand j'avais encore 16 ans. C'est là, aux côtés du propriétaire de la chaîne qui a une forte expertise en télécommunication, que j'apprendrai la prise des sons et la mise en onde avant de passer à l'animation. Cependant, compte tenu de certaines considérations, j'ai dû quitter la KHRT pour passer dans 2 autres médias privés, toujours à Mbujimayi, où j'ai fui animateur d'émissions des jeunes, présentateur des journaux parlés et télévisés à la télévision catholique du diocèse de Mbujimayi. C'est la télé Fraternité, la RTF. Et en 2005, avec l'ouverture du bureau de la MONUSCO au Kassai Oriental, j'ai passé mon test et j'ai fui retenu des 22 candidats en liste parmi les 4 journalistes pour la radio Kapi Mbujimayi en août 2005. Depuis 2005, j'œuvre pour cette radio qui m'a permis de me professionnaliser davantage dans le métier avec diverses formations en journalisme et la découverte du fin fond de la République démocratique du Congo, car j'ai sillonné plusieurs contrées du pays pour réaliser des reportages. Depuis 2011, j'ai rejoint la rédaction centrale de Kinshasa où j'évolue au desk langue et depuis une année, j'ai la charge de la présentation des actualités internationales. Comme tâche quotidienne, je suis du shift soir, j'arrive aux alentours des 13h30 au bureau et à 14h je participe au conseil de rédaction. Après le conseil de rédaction, je passe maintenant à mes tâches de la journée en commençant d'abord par la navigation sur les sites d'information où je dois collecter les différentes dépêches des différentes agences afin de préparer les tranches des synthèses d'actualité internationale. Puis je passe à la rédaction et dès que je termine la préparation de mes 2 livraisons, je commence la traduction des nouvelles du pays. Mon temps libre, je le passe souvent à la maison avec les enfants. On s'amuse avec les enfants à la télé et à d'autres jeux au niveau de la maison et surtout avec notre chien. Préférence pour ce qui est de la nourriture, c'est une préférence frites, poisson. Mais en tant que Congolais, bantou, c'est le muteta, ici on appelle bilolo, poisson frais avec le foufou. Et les sports, c'est le football, le volleyball et tennis de table, mais pour moi-même, en temps libre, je fais le taibo. Il s'agit d'une gymnastique avec des exercices physiques. Musique, je préfère les anciens succès congolais, avec beaucoup plus Luambo, Madilou et les autres belles compositions de la rumba congolaise. Comme projet d'avenir, on n'est pas éternel à la radio, les institutions restent et les personnes passent. Acquérir encore plus d'expérience sur le plan international, sinon j'évoluerai en solo dans mon pays avec des activités privées. Voilà un peu ce que je peux dire sur ma personne.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Retenez ceci dans vos carnets, le 20 juillet, ce sera la journée africaine de l'écologie. C'est déjà la fin du magazine des Nations Unies. Merci de nous avoir suivis. Je suis Tina Salama. C'était un plaisir de vous le présenter. À la mise en onde aujourd'hui, André Mongou. On lui fait un grand coucou. Il est de l'autre côté de la baie vitrée également. Honoré Missenga qui l'a réalisé. Il est également au reportage sous la coordination de Jean-Pierre et Lali Coco. Et Martha Sebujangwe a supervisé ce magazine. À très bientôt sur Radio Capi. Ciao.